France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et oui, car aujourd'hui j'accueille Philippe Tesson, que vous avez forcément lu quand il dirigeait Combat ou Le Quotidien de Paris, mais encore au fil de ses nombreuses chroniques dramatiques. Depuis hier, il est en scène au Théâtre de Poche pour nous raconter l'histoire du Bœuf sur le Toit, autour de Jean Cocteau, Darius Milhaud, Francis Poulenc et tous ceux qui ont fait la gloire de ce cabaret, une occasion de découvrir la face musicale de Philippe Tesson. En fin d'émission, la chronique de Campistron, Patrick, sur les chanteuses de variété qui s'attaquent au piano classique, mais pour commencer... Est-il besoin de le souligner? Nous sommes à l'heure des grèves et des revendications.
Enfin, messieurs, qui êtes-vous? Que désirez-vous?
Au nom de la fédération, nous venons en délégation faire au patron l'exposition de toutes nos revendications. Nous n'admettons pas d'objection. Nous exigeons sans restriction l'approbation et l'adoption de toutes nos propositions. Primo et sans retard, la journée d'une heure et quart. Deuxion au minimum, 100 francs par jour et par heure. Repos le samedi, congé le lundi et tous les après-midi. Au nom de la fédération, nous venons en délégation faire au patron l'exposition de toutes nos revendications. Nous n'admettons pas d'objection, nous exigeons sans restriction l'approbation et l'adoption de toutes nos propositions.
Et oui, vous le voyez, tous les sujets d'actualité sont dans l'opérette. Les connaisseurs auront reconnu Dédé d'Henri Christinet dans cet enregistrement sous la direction de Jacques-Henri Riss. J'en profite pour vous signaler la réédition chez Milan Musique, une maison qui fait du très bon travail en ce moment, d'un disque intitulé La Voix du Front Populaire, Les Chansons du Front Populaire, où vous retrouverez justement une autre chanson sur les mouvements sociaux, La Grève de l'Orchestre de Ray Ventura, que je vous avais déjà proposé dans cette émission. Mais les chansons du Front Populaire, ce ne sont pas seulement les chansons de revendication, ce sont aussi les chansons sur les congés payés, sur le week-end et sur tous les plaisirs du farniente.
Vous êtes prête?
Oui, le temps de mettre mon chapeau, un peu de poudre et je suis à vous.
Faites-vous, mon chou, faites-vous, tu fais si beau.
9, 10,
11,
12,
midi. Pendant toute la semaine, enfermé dans le bureau, on attrape la migraine, on travaille beaucoup trop. Mais la fin de la semaine s'amène, on dit ça n'est pas trop tôt. Quand on a pris tant de peine de prendre un peu de repos. Lorsque l'horloge sonne, midi, midi, au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi.
Et si l'on téléphone, bah tant pis, tant pis, le patron, la patronne, tout le monde est parti.
Michel est à la pêche,
Lulu chez des amis,
et Robert se dépêche
d'aller retrouver Mimi.
On a mis sur la porte avis, avis
aux raseurs de toutes sortes,
fermés jusqu'à lundi.
Tous les jours, le chef comptable me fait sans en avoir l'air.
Quoi donc?
Un peu de pied sous la table et ça me tape sur les nerfs.
Oh, par exemple.
Lorsqu'il me dicte une lettre en faisant le plaisantin.
Oh,
je ne sais plus où me mettre, mais le samedi matin.
Bom, bom,
lorsque
bom,
l'horloge
bom,
sonne,
bom,
midi,
bom, bom,
midi, il me dit ma petite mignonne, n'est donc jusqu'à lundi. Je réponds mon vieux bonhomme, merci, merci, mais pour voir votre pomme, toute la semaine me suffit. Non vraiment je regrette, mais vous voyez là-bas, mon amoureux me guette, et je vole dans ses bras. Oh il est jeune. sonne, il m'emporte chez lui, chez lui.
Chérie, je vous emporte chez moi jusqu'à lundi.
Mon amoureux me guette, je vole dans ses bras.
Ce sont deux jours de fête dans la petite maison là-bas.
On a mis sur la porte avis, avis aux raseurs de toutes sortes.
Fermé jusqu'à lundi.
N'est-ce pas que c'est un petit bijou fermé jusqu'à lundi? Mireille, vous l'avez reconnu, avec bien sûr Jean Sablon au piano, Monsieur Signavine, un morceau que vous pouvez retrouver parmi beaucoup d'autres, donc dans ce CD paru chez Milan Musique, ça s'intitule La Voix du Front Populaire.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais il est temps de retrouver sans plus attendre mon invité. Un invité qui lui n'a pas l'air de se reposer très souvent. Enfin, il va nous le dire. Ça fait plus de 60 ans qu'il écrit, qu'il crée des journaux, qu'il commente l'actualité politique et théâtrale, son autre passion, à tel point qu'il est en ce moment en scène au Théâtre de Poche pour nous raconter l'histoire du bœuf sur le toit. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Philippe Tesson.
La séance du bœuf sur le toit s'opposait au ballet russe. C'est l'esprit de contradiction qui est une forme de l'esprit de création, ou plutôt l'esprit de création est la forme la plus haute de l'esprit de contradiction. Il le fallait. Un détail, c'est Claudel qui a trouvé le titre « Le bœuf sur le toit » au Brésil. C'était une enseigne comme le chien qui fume ou le cheval vert.
Bonjour Philippe Tesson.
Bonjour.
On vient d'entendre la musique du ballet de Millot, Le bœuf sur le toit, et puis tout de suite après, La voix de Cocteau, évoquant l'origine du nom de ce ballet devenu un lieu merveilleux. J'ai voulu qu'on entende Cocteau d'abord parce que j'ai l'impression que c'est d'abord pour Cocteau que vous avez voulu nous proposer ce spectacle, Philippe Tesson.
C'est notamment pour Cocteau. Pas seulement pour Cocteau, par exemple, c'est également pour ce qu'on vient d'entendre, que je préfère d'ailleurs en version de piano à quatre mains, qui est la plus belle, je trouve un peu foire celle-là, orchestrale.
Ah, c'est enfin, la version d'origine.
Ouais, peut-être, mais je peux préférer une version qui ne serait pas d'origine.
En tout cas, j'aime beaucoup celle pour quatre mains également.
Ça n'est pas Claudet qui l'a trouvée, il l'a vue. Oui. Sur une façade. Oui. Il n'a pas trouvé ce mot. Ça existait à l'époque à Rio de Janeiro. Il y avait le cabaret le plus célèbre, d'ailleurs, qui s'appelait Le bœuf sur le toit. Claudel s'en approprie la découverte, là.
Millot en fait une musique et tout ça va devenir un lieu extraordinaire. C'est donc au lieu que vous rendez hommage. Je le disais aussi à Cocteau, qui est un personnage central dans toute cette histoire.
Tout à fait.
Pour qui vous avez un grand amour.
Oui, une grande admiration et une tendresse.
J'oserais dire, j'ai un peu plus loin, Philippe Tesson. Il y a, on le souligne à juste raison, chez Cocteau, un côté découvreur, de talent, curieux, passionné, énergique, une légèreté qui n'est pas si légère. Je trouve que tout ça vous ressemble un petit peu.
Oui, vous m'aviez dit d'ailleurs hors micro que vous n'aviez pas une admiration extraordinaire pour Cocteau.
Ah non, mais...
Oui, j'emprunte. J'ai en commun...
Vous vous projetez un peu dans Cocteau.
Bien sûr, chacun de nous est narcissique. Ouais. Nous avons en commun, si je puis dire, vous voyez, où je hausse la barre, Cocteau et moi avons eu beaucoup de traits, certainement l'esprit de légèreté. Ouais. Il avait également l'esprit de sérieux, il faudra que je l'ai certainement moins que lui.
Mais, la curiosité, des talents que vous rassemblez ici dans le spectacle.
La gourmandise, la fraîcheur, l'insolence, voilà. Et puis aussi des choses plus profondes, peut-être plus.
Parce que c'est peut-être aussi un personnage moins léger et moins joyeux qu'il n'en a l'air.
Je trouve que c'est un personnage tragique. Je prends d'ailleurs sa vie, mais j'ai toujours tendance à exagérer. Je prends la vie pour une tragédie. Il n'a jamais finalement résolu une équation très très douloureuse, que dis-je, une souffrance très très douloureuse. C'est-à-dire cette contradiction entre, si je puis dire, entre la nostalgie obsessionnelle de la jeunesse et l'angoisse de la vieillesse. J'ai la nostalgie de ma jeunesse, mais je n'ai pas le même rapport que lui, allons-y gaiement, c'est ce que je viens de dire, je n'ai pas le même rapport que lui à la mort.
Alors Philippe Tesson, bon, justement... C'est quand même extraordinaire. On va pas être trop précis, on va dire que vous êtes quand même né sous Gaston Doumergue. Aujourd'hui, vous montez sur scène, vous vous mettez un peu en danger au premier plan pour parler du Bœuf sur le Toit. Et vous qui avez été un éminent critique de théâtre, qui l'êtes toujours d'ailleurs parfois, vous passez de l'autre côté.
Oui.
Pour le Bœuf sur le Toit, Cocteau, pour un spectacle.
Je ne monte pas vraiment, je n'ai pas cette prétention. J'aurais aimé beaucoup le faire. Je ne monte pas vraiment sur la scène. Ça n'est pas une scène. Ça n'est pas une salle de théâtre, c'est pas une salle de concert. C'est un cabaret. Ouais. C'est tout à fait différent. D'abord, je suis géographiquement, topographiquement au même niveau que le public. Le public n'est pas dans une salle et moi sur une scène. Je suis dans
la... Ça change quelque chose.
C'est absolument étonnant. Mais il m'est arrivé d'ailleurs en amateur comme ça de faire des petites choses au théâtre. Mais c'est tout à fait différent. C'est moins traquant, si je puis dire. Je suis au niveau du public. Je bouge. Je ne réponds pas à une scénographie très scrupuleuse. Je suis en complicité avec un public. Peut-être avec le temps parviendrai-je à l'apostropher, à dialoguer avec une forme d'interactivité au cabaret qu'il n'y a pas au théâtre.
Vous n'avez pas peur du regard de vos confrères, d'Armel Hélios, de Jacques Nerson, de tous les...
Non, non. Vous savez, j'ai fait trop dans ma vie, trop de critiques depuis plus de 50 ans, et j'en fais d'ailleurs encore, pour attacher de l'importance à ce que disent critiques.
Ah bon, c'est vous qui les écrivez.
Oui, alors certains d'entre eux ont une profonde sympathie pour moi, d'autres une profonde antipathie. Je m'attends au pire. Je ne dirais pas, comme on dit en général, moi je ne lis pas les critiques, au contraire, je les lis, mais je relativise.
Ça ne me rend pas malade.
Il y a des choses beaucoup plus importantes.
Bon, écoutez, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin, parce qu'on va parler, bien sûr, on va revenir beaucoup plus en détail à l'histoire du Bœuf sur le Toit et à ce cabaret spectacle que vous proposez en ce moment au Théâtre de Poche, mais je voudrais qu'on parle aussi un peu plus largement de la place de la musique dans votre vie, de patron de presse, de critique de théâtre, d'homme de son temps, curieux de mille choses. Et voilà, tiens, pour commencer, peut-être, je pense que ça pourrait vous rappeler un peu les années de votre enfance.
Thank you.
On reste au temps du Bœuf sur le Toit et du groupe des Six, puisque c'était l'embarquement pour Cythère de Francis Poulenc, que Philippe Tesson. Oui, c'était pour évoquer vos jeunes années. Vous avez beaucoup travaillé le piano, hein?
Oui, beaucoup.
Beaucoup.
Nous avions une mère qui nous a mis au piano, solidement, enchaînée.
Vous et votre sœur?
Oui. C'est à partir de 5 ans, j'ai beaucoup joué. Oui, j'ai beaucoup joué. J'ai joué toute ma vie, mais mes doigts se sont un peu abîmés avec l'âge, et puis j'ai moins eu de temps qu'autrefois.
Et cet embarquement pour Cythère, vous l'avez même joué à deux pianos avec votre sœur en public.
En public aussi, dans un endroit très incongru. On ne serait plus à Poulenc, au Cirque d'Hiver.
Au Cirque d'Hiver.
au Cirque d'Hiver, une espèce de gala privée. Voilà, ça m'a beaucoup amusé. J'ai fait beaucoup de ce qu'on peut appeler de la musique de chambre amateur. J'ai adoré ça dans ma vie.
Alors, je sais que dans votre répertoire, il y a la berceuse de Chopin.
Oui, mais on faisait
beaucoup
tout le monde.
De Mozart. Tout le monde. Tout.
Non, l'embarquement pour Cythère, c'est quand même plus rare. Et c'est plus frais, c'est plus léger. Mais j'adore.
Ce qui me fascine, Philippe Tesson, entre autres, vous venez encore de parler de légèreté, vous adorez Poulenc, etc. Et alors, vous allez me dire, c'est pas contradictoire, vous êtes un homme du Nord, hein. Vous n'êtes pas du tout un latin, un méditerranéen, vous êtes vraiment un homme du Nord, vous êtes né dans le Thiérache.
Un Thiérache, oui, c'est mal connu, c'est le Hainaut français, oui, c'est ouais. À côté près de la Belgique. N'est pas le Nord industriel. Oui. Mais je n'ai rien contre l'industrie, bien au contraire, elle nous a nourris. Mais la culture est quand même un peu différente. Mais je vous trouve rapide, car vous aussi vous êtes un homme du Nord.
De la Normandie.
C'est pas la même chose. Enfin, c'est quand même le nord de la Loire, car on est vraiment en dessous de la Loire. C'est quoi? C'est la culture méditerranéenne, latine, qui ne m'a pas nourri. J'ai une passion pour mon pays, et notamment pour sa culture. Et je trouve que vous êtes très léger à votre tour, en imposant comme ça cette certitude, le nord, donc l'absence de légèreté.
Non, vous avez raison.
Je me bats contre ça.
Il y a beaucoup de fantaisie aussi,
déjà, bien sûr. Voilà. On daube comme ça constamment dans ce pays vulgaire sur la Belgique et sur la Flandre. Je regrette, c'est une culture merveilleuse. Je préfère d'une certaine façon à James Hansen. Mais attendez, Matisse est un homme du Nord. Matisse est né dans une ville très très voisine de celle où je suis lié. C'était un homme du Nord. Et alors? Non, mais vraiment, je vous prends en contradiction avec la vérité, avec la logique et avec l'intelligence. Et avec la culture, en tout cas.
Ce que je voulais dire par là aussi, c'était peut-être, c'est peut-être lié aussi à votre génération, au fait que vous avez traversé la guerre pendant votre adolescence. Il y a aussi quand même cette fascination pour l'Allemagne chez vous, qui est quelque chose de très important. Hein.
Oui.
Dans votre formation intellectuelle et artistique.
Tout est toujours à renvoyer à un contexte. En l'occurrence, il y a effectivement un contexte géographique. Enfin, l'Allemagne est quand même plus proche de mon village que le Pays Basque. Voilà, il y a ça. Il y a une éducation aussi, peut-être. Ma famille avait un tropisme plus germanique que latin, que méditerranéen, aussi un contexte alors familial et historique très très particulier. J'ai vécu la guerre, j'étais adulte quand la guerre s'est terminée, enfin j'étais en tout cas très adolescent. Et quand la guerre a éclaté, j'avais 12 ans, et donc j'ai vécu une occupation assez contraignante, assez dure et très intéressante. J'en parle souvent, ça n'intéresse pas beaucoup
les
gens.
Mais dès l'époque de vos études, d'ailleurs, vous avez travaillé sur ce sujet de...
Absolument, oui, l'Allemagne a exercé forcément, de par cette oppression qu'elle m'a imposée à moi et à ma famille, ça a provoqué chez moi un intérêt tout à fait légitime. Et voilà, pourquoi sont-ils là? Qui sont-ils, eux, que j'admire pour la musique qu'ils m'ont donnée, pour la littérature qu'ils m'ont donnée?
Vous avez écrit une thèse sur le romantisme allemand et les sources littéraires du nazisme.
Sur les sources littéraires du nazisme, oui, notamment sur Fichte, qui, à la fin du 18e, avait finalement dessiné les premiers éléments de la charte, sur certains points, en tout cas sur certains problèmes, la charte du nazisme. C'est vrai, le nationalisme allemand, on le sait, même Goethe, finalement, à partir depuis Goethe, l'unité de la nation allemande a posé aux gens de ces pays-là un des problèmes que le nazisme a résolu à sa façon, si je puis dire. Voilà. Et ça m'intéressait. Et la littérature allemande m'intéresse beaucoup aussi. Le théâtre allemand m'intéresse à vie. J'avais fait un travail...
J'avais cette part mélancolique et rêveuse.
Mélancolique, peut-être pas rêveuse, en tout cas. Oui, je me suis beaucoup intéressé à un auteur allemand qui s'appelle Kleist, Heinrich von Kleist, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, car il illustre cette contradiction, cette dualité allemande qui est extraordinaire. Kleist a quand même servi les armées napoléoniennes avant de servir les armées prussiennes. Je trouve ces contradictions-là, surtout quand elles sont sous la plume d'un écrivain de ce talent-là, elles sont extraordinaires. Le prince de Hombourg est une des pièces que je préfère dans le répertoire théâtral.
C'était un grand classique au temps du TNP, mais enfin, on le voit moins aujourd'hui, non ?
On le voit très rarement. Ça n'est pas tellement dans l'esprit français. C'est fantaisiste au sens de la fantasia allemande. C'est une pièce sur l'honneur, qui était une valeur qui n'intéresse pas beaucoup la France d'aujourd'hui.
C'est rare, cher Philippe Tesson, que je fasse une symphonie de malheur dans cette émission. Non pas que j'aime pas malheur, mais que c'est vraiment pas le ton habituel. Mais voilà, c'est tellement beau, ce début de la sixième. Et c'était le générique de votre émission de télévision sur les livres.
C'était une émission littéraire d'il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, à France 3. J'avais choisi...
À quel titre,
oui. Voilà. J'avais choisi ce générique pour vous provoquer déjà. Voilà. Déjà à l'époque. Je me suis dit, je vais l'agacer. Non, mais ça avait un sens. C'était justement parce que c'était pour donner le change, pour faire illusion. Non, c'était une forme de provocation à ça. Non, c'est énergique. Il y a beaucoup d'énergie dans la musique de temps en temps. J'aime aussi beaucoup la légèreté. Vous voyez, c'est ça. Je suis Cocteau.
Voilà, voilà. Je referme la parenthèse. La télé, comme animateur, c'était pas trop votre,
non,
votre truc, comme on dit.
Non, je préférais participer à animer. J'apportais une réponse aux questions que je posais. Ça agaçait beaucoup les gens que j'invitais.
Je reviens à votre formation rapidement. Vous avez été le condisciple à l'école de Pierre Mauroy.
Oui, ben ça renvoie à ma géographie, justement.
Oui, justement.
J'ai passé quelques années de guerre au collège du Cateau-Cambrésis. Et Pierre Mauroy était mon compagnon, était un villageois comme moi. Nous nous entendions très, très, très bien.
Vous ne parliez pas politique.
Ça ne m'a jamais gêné d'avoir des amis adversaires de mes idéologies.
Comme beaucoup de Français, vous êtes monté à Paris, comme on dit.
Je suis descendu, en l'occurrence.
Je suis descendu à Paris. Pour aller à Sciences Po.
J'ai été pensionnaire à Stan, d'abord. Puis ensuite, j'ai fait des études assez longues, notamment Sciences Po, et ensuite des lettres.
C'est quoi votre première impression du Paris de ces années-là, donc quelques années après la guerre, pas tellement?
On sortait, non, c'est
tout de suite après.
Non, pas du début des années 40. Non, pas du tout. Enfin, juste au lendemain de la guerre. Voilà, c'est une transition habile que vous faites, je pense, avec le bœuf sur le toit. Eh bien, j'ai beaucoup. D'abord, c'était une fascination, c'était une découverte. J'étais adolescent, je vois cette ville.
La ville était toute noire, hein.
Oui, Malraux n'était pas encore passé.
C'était mieux ou moins bien?
Il n'est pas encore passé par là. Ça avait son charme, ça avait son authenticité. C'était moins léché qu'aujourd'hui.
Il y avait des bougnats.
Oui, absolument. Il y avait rue du Dragon, un bougnat qui tirait un cheval, qui avait une carriole dans laquelle il mettait des boulets de charbon. Il tirait un cheval. C'était quand même extraordinaire.
En tout cas, à distance, ça me fait rêver.
Mais oui, vous savez que... Je suis plus vieux. C'est une chose qui est très intéressante à ceux qui pourraient s'intéresser personnellement à notre dialogue. Je suis plus vieux, je crois, par rapport à vous, que Cocteau n'était par rapport à moi.
Ouais.
Alors, je vous demande de comprendre. Non, mais c'est vrai, nous n'avons forcément pas le même regard, puisque une quarantaine d'années nous sépare, et vous ne pouvez peut-être pas tout comprendre de ce que je comprends de Cocteau.
Le pari de vos 20 ans, c'est aussi un pari de cabaret?
Oui.
De chansons?
Oui, ça a duré 2 ou 3 ans.
Ouais.
C'est le syndrome des après-guerres. C'était comme le Berlin d'après.
Ah oui, il y avait cette espèce de défoulement, de joie de vivre.
Bien sûr, ouais. Un plaisir, il y avait une joie, c'est tout à fait ça. Le bœuf sur le toit, c'est ça. Une libération, une insouciance extraordinaire, un plaisir quotidien, bien sûr.
Alors le bœuf sur le toit, c'est la libération de 14-18. Vous, c'est la libération de 39-45.
Ah,
et
oui.
C'est quoi? C'est Saint-Germain-des-Prés, alors?
Oui, c'est essentiellement Saint-Germain-des-Prés, d'autant plus que j'habitais déjà dès à présent Saint-Germain-des-Prés. C'était la Rose Rouge, qui était aujourd'hui devenue le cinéma L'Arlequin, rue de Rennes.
C'était là, la Rose Rouge.
C'était Boris Vian, c'était Robert Derry, c'était Yves Robert, c'est Frère Jacques. C'est l'esprit Vian. Vian symbolise.
Vous l'avez croisé, Boris Vian?
Mais j'étais timide adolescent, alors j'admirais beaucoup. J'étais pas du tout dans la vie publique. J'étais un jeune étudiant. C'est tout, mais je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai admiré, voilà.
Vous aviez déjà le goût du théâtre?
Ah oui, très jeune. Très
alors jeune. C'était quoi?
Très jeune, mais enfin, ni le contexte historique, ni le type d'éducation que j'avais reçu ne m'autorisait à prétendre faire du théâtre, puis voilà. Mais j'étais passionné, dans mon éducation, on parlait beaucoup de théâtre, dans ma jeunesse, et puis très rapidement, bien évidemment, j'ai tout, beaucoup réfléchi aussi sur le théâtre, et j'ai beaucoup regretté, après avoir un peu quitté la direction des journaux, j'ai beaucoup regretté de ne pas opérer une reconversion totale, comme on devrait faire souvent à la soixantaine, vous voyez, vous le ferez peut-être. Oui, j'aurais aimé mener une vie nouvelle autour du théâtre, ce que j'ai d'ailleurs en partie fait, puisque nous avons repris le théâtre de poche, puisque je n'ai jamais essayé de faire de la critique, et puisque aujourd'hui, comme vous l'avez très gentiment dit, je monte sur les planches. En tout cas, je descends plutôt à la cave, parce que c'est à la cave. Je refais un cabaret. Je réaménage la salle du bas de mon théâtre pour en faire un cabaret. C'est pas une reconstitution exacte, mais c'est une évocation assez fidèle dans son esprit. On boit là mon spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? On boit, les gens boivent, les gens sont sur des tables, ils boivent du champagne.
C'est ça qui caractérise un cabaret pour
c'est
vous.
C'est ça. Hein. Ah, non, pas pour moi. C'est un vrai c'est le cabaret du Moyen-Âge.
Voilà.
Car on l'ignore. Mais c'est comme ça que ça se passait au Moyen-Âge. C'était formidable. J'ai pas vécu, mais enfin, je me le représente. Et le cabaret berlinois qui a tellement compté également, si on parle de l'Allemagne dans la culture allemande, qui a été parmi les premiers ferments du combat contre le nazisme. Ça a été le cabaret brechtien. On buvait. En Allemagne, on buvait de la bière. Aujourd'hui,
en France,
boit du champagne.
On boit du vin, du champagne.
Ah
oui, c'est quand même plus chic, on est chez Tesson. On va faire un petit détour par la Rose Rouge avant de retourner au bœuf sur le toit.
Un peu fantastique, magique et mystique, tantôt poétique, tantôt sarcastique, avec un rien d'ingénu. Elles ont des musiques caractéristiques, des airs ironiques, aristocratiques, qui vous communiquent les mois romantiques, parfum des ans révolus.
À danser marquise, à marquis danser, la gavotte exquise du temps passé.
D'abord la danse, puis la romance, et l'insouciance, la défaillance, voici que s'ouvrent les bras de faïence. Sur des dentelles d'Italie, les boucles blondes, les tailles rondes, qui se confondent sous les rotondes, on se retrouve dans un autre monde, parmi les brumes de l'oubli.
Rubans et cravates, bottons écarlates, charmants diplômes,
diplomates, bretteurs épirates, dames délicates, beauté que l'on flatte dans les bosquets de Marie. Mais ces acrobates, ces aristocrates n'ont pas d'omoplate, de cœur ni de rate, car les automates ne sont que des boîtes, des roues, des fils, des poulies.
Quelle mécanique, il faut remonter la boîte à musique. Va s'arrêter.
Les boîtes à musique sont des mécaniques un peu fantastiques, magiques et mystiques. Mais les automates ne sont que des boîtes, des roues, des fils, des...
Les frères Jacques, Philippe Tesson, parmi ces chanteurs de vos années de formation avec ouais. Boris Vian, avec d'autres
c'était
encore.
C'était pas forcément ma passion, les frères Jacques, mais c'était bien, c'était gai, c'était joyeux.
Ça, c'était dans La Belle Arabelle, en 1956, donc c'est à peu
j'ai
près.
J'ai reconnu cette air, oui.
Au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je ne sais pas si vous avez eu un but jusqu'en 1960, mais en tout cas, à partir de 1960, vous avez eu une activité extrêmement intense.
Par hasard.
Par hasard.
Oui, non, je voulais me consacrer plutôt à la littérature qu'à la politique et au journalisme. Je n'étais pas fanatique du journalisme. Je ne suis pas d'ailleurs resté journaliste caricatural. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans le journalisme. J'aime énormément le statut de journaliste parce que ça permet de satisfaire une gourmandise universelle qui est la mienne.
Alors, en 1960, donc, vous devenez le patron, le rédacteur en chef de Combat, oui. qui est un des journaux très importants de l'après-guerre, le journal de Camus, notamment, oui. connu pour ça. Oui. Mais donc, vous allez faire un journal, au fond, très, très ouvert, atypique, très libre, et qui a beaucoup, beaucoup, pour cette raison, marqué les esprits par la diversité des plumes et des talents.
Exactement, comme aurait fait Cocteau, décidément. Non, mais c'est vrai, d'ailleurs.
Vous êtes arrivé là par hasard, hein.
Je suis arrivé là par hasard.
Vous n'aviez pas les mêmes opinions que le propriétaire.
Non, mais qui était un homme très libéral. C'était un juif tunisien qui ne savait pas très bien comment faire un journal à Paris. Moi, je ne savais pas très bien comment non plus, mais on apprend très vite à faire un journal pour peu qu'on s'y investisse beaucoup. Oui. Et puis, j'avais la liberté de lui donner l'esprit qui était le mien. On fait toujours un journal, là, quand on a une liberté, on fait toujours un journal conforme à soi-même. D'ailleurs, on ne fait jamais de choses que conforme à soi-même quand on peut le faire.
Mais pour vous, j'ai l'impression que l'esprit d'un journal, c'était surtout ce que vous invitiez à venir écrire dedans, au fond, la diversité de talents, de
oui,
curiosités.
Oui, c'était aussi une gageure, si je puis dire, jusqu'où peut-on aller dans l'expression de la liberté, et de chacun, dans la liberté de sa liberté.
C'était vraiment dur, sous le général de Gaulle, de s'exprimer librement?
Ah, pas davantage qu'aujourd'hui, simplement c'était merveilleusement organisé. On insultait le général de Gaulle, bien on allait devant la 17e chambre correctionnelle, on était condamné à 2000 francs d'amende, et puis on recommençait, ça m'est arrivé 32 fois, lorsque j'abritais des papiers qui étaient très hostiles à de Gaulle. Les choses étaient très claires, et puis ensuite on recommençait comme devant, et c'était parfait. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Compliqué. Le verre de la tartufferie, le verre, a corrompu le... Oh, non, il faut que je fasse très attention.
Faites à ce que vous, vous avez le don de sortir des formules, non, de provoquer, et chaque fois de vous retrouver avec justement avec des procès, non, mais, des gens furieux.
Oui, oui, ce verre-là a contaminé notamment la justice. Il a contaminé la société française qui est tout à fait constipée, qui a le cul serré, malgré les alibis qu'elle se trouve ou les procédés qu'elle trouve, pour redonner le change et pour se considérer comme une société de liberté. Je suis sûr que vous êtes de mon avis. Et la plupart des auditeurs.
Dans la neutralité de l'interview.
Bon, pardon.
Combat, évidemment, on ne va pas entrer en détail dans l'histoire de Combat, ça a suffisamment marqué ceux qui l'ont lu à l'époque, mais j'insiste sur l'importance justement de la culture dans ce journal, et d'ailleurs notamment de la musique et de la danse, et notamment à travers un vieil ami qui était Marcel Schneider.
Ah oui, qui était merveilleux, qui était un germaniste d'ailleurs, tout à fait nourri de culture allemande.
Oui, exactement.
Ce merveilleux écrivain, un homme délicieux.
Et en même temps proche du groupe des Six, un peu comme vous. Ça, ce sont les années Combat, journal que vous avez finalement quitté en 1974, oui. pour créer, au fond, on peut dire, quelque chose qui était la suite de ce que vous avez voulu faire dans Combat, qui a été le quotidien de Paris.
Oui, exactement. J'ai modernisé un peu, j'ai rajeuni un peu Combat, puisque le propriétaire n'en pouvait plus, il était très âgé, donc j'ai quitté pour faire mon combat à moi, finalement, qui était le quotidien de Paris, peut-être plus proche. Et puis le quotidien de Paris n'avait pas d'hérédité. Le combat avait l'hérédité de Camus qui était très pesante. Oui, oui. Je savais que je ne ferais jamais mieux ni aussi bien que Camus. Tandis que moi, au quotidien de Paris, j'ai assumé ma propre responsabilité et ma propre liberté.
Voilà. Tout ça avec quelqu'un qui a été évidemment très proche de vous dans cette aventure, qui était votre femme disparue il n'y a pas très longtemps.
J'ai été plus proche dans l'aventure commune que nous avons menée, c'est-à-dire la création du quotidien du médecin, puisque ma femme était médecin, qu'elle n'a été proche de moi dans l'aventure de Combat. Elle était un peu extérieure à Combat.
Oui, oui.
Et au quotidien de Paris, d'ailleurs. Enfin, elle a mené son chemin. Nous l'avons mené ensemble. C'était très, très bien. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble. J'avais une femme qui était merveilleuse. Oui. Voilà, mais qui est morte il y a 2 ans.
Et il faut dire aussi, Philippe Tesson, que dans ces mêmes années, vous avez commencé donc à écrire régulièrement sur le théâtre, notamment au Canard Enchaîné.
Non, auparavant. J'ai commencé à écrire sur le théâtre hebdomadairement et pas une semaine, je n'ai depuis 50 ans dérogé à cette fonction. J'ai tenu une chronique dramatique dans 3 journaux. D'abord au Canard Enchaîné, parce que j'étais pas toujours d'accord avec le Canard Enchaîné, mais j'admirais la liberté de ton
justement,
que le Canard
ça.
Permettait à ses collaborateurs. Et ensuite, j'ai été 15 ans à l'Express. J'ai tenu la critique de l'Express et ensuite le Figaro Magazine depuis 20 ou 25 ans. Et voilà. J'aime beaucoup cet exercice. D'abord parce que j'adore le théâtre.
Vous allez au théâtre au moins toutes les semaines?
Ah non, en période normale, apaisée, je vais au théâtre 3 ou 4 fois par semaine. Ah oui, en ouverture de saison notamment. Oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin du théâtre. Pour moi, le théâtre est non seulement un plaisir intellectuel, et un plaisir affectif aussi, mais c'est une, j'allais dire, enfin, soyons pas prétentieux, c'est quand même une grille de lecture de la société d'aujourd'hui. J'établis dans ma mécanique personnelle une relation très particulière entre la vie et le théâtre. Essayant, comme une hygiène, essayant de faire de la vie individuelle et collective, d'en faire un théâtre, je suis très, c'est devenu une déformation, je suis très joueur, je pratique volontiers le deuxième, le troisième et le dès que je peux, le dixième, degré. Je suis un peu comme Satie, il pratiquait la banalité au deuxième degré. Moi, je pratique le théâtre dans la vie au énième degré. J'aime beaucoup ce jeu-là. Et puis, si vous permettez, j'adore le théâtre, non pas d'idées, mais l'incarnation de l'idée dans la vie au théâtre, je trouve ça formidable. J'ai toujours prétendu que les meilleurs éditoriaux dont on pouvait disposer, s'ils n'étaient pas écrits dans la presse, mais était écrit au théâtre et proféré au théâtre, c'est très important la profération. Et d'ailleurs, je prétends que avec lui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui et d'estime. Enfin, c'est pour le taquiner parce qu'il est très susceptible. Je préfère lire un passage des Coefforts d'Eschyle concernant les problèmes du racisme, de l'intégration, qu'un éditorial de Jean Daniel, ce que je trouve plus ennuyeux. C'est vrai, je vous conseille Eschyle, je vous conseille les Grecs,
le monde dans lequel
Shakespeare,
on vit.
Molière, Marivaux, même et les autres, et les Allemands.
Alors, vous avez en plus le sens de l'enchaînement, parce que le dernier musicien que vous avez cité il y a une minute ou deux, c'était Eric Satie.
C'est la haine. c'est à la fois très, très innocent et très, très excitant.
Bien, Satie, par rapport à nous, était déjà vieux. Il avait une petite, un petit bouc, une petite barbiche de chèvre-pied et un binocle, un parapluie à la main. Il était de Honfleur et il aimait beaucoup les farces comme celle d'Alphonse Allais, qui était aussi de Honfleur. Par exemple, Satie ne disait jamais « j'ai fait une bonne chose ». Il disait avant la mode « j'ai fait un malheur ». Il avait tout un vocabulaire qui n'était pas celui qu'on avait à l'époque. Il s'était mis, contrairement aux musiciens impressionnistes, à l'école de Dindy. Il était déjà âgé à la Schola Cantorum. Et ce qui nous a plu tout de suite, c'est qu'au lieu du flou de l'impressionnisme, il nous apportait des lignes très nettes et très précises qui coïncidaient avec une espèce de retour à l'exactitude, à la ligne.
Voilà, Cocteau qui parle d'Éric Satie. On vient d'entendre la Diva de l'Empire, là, par Maddy Mesplé et Aldo Ciccolini. Philippe Tesson, on l'entend, c'est drôle toujours, ça me frappe quand Cocteau parle du groupe des Six, il dit « nous », comme s'il en faisait partie, en fait, comme s'il était membre de cette bande de musiciens.
Attendez, il y a encore quelque chose de plus drôle, c'est que Satie n'en faisait pas partie.
Lui n'en faisait pas partie, certes, mais c'était leur modèle.
Il parle de Satie, comme il l'associe au groupe des Six, comme il s'associe lui-même. Oui, mais c'est quand même l'esprit Cocteau qui domine. Il a quand même exprimé, il a formalisé d'une certaine façon l'esthétique des Six. C'est vrai, ils n'étaient pas sous sa domination, ils n'étaient d'ailleurs pas la qualification nécessaire. Mais enfin, il était son être tout entier, son esprit, sa conversation, son projet constitue une espèce de charte implicite que les Six ont pas toujours respecté. D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre n'a qu'un rapport extrêmement lointain avec l'esthétique du
groupe des Six, évidemment, puisque c'est Satie dans les années 1900.
C'est antérieur, absolument.
Mais n'empêche que vous l'avez mis dans votre spectacle. Donc c'est bien l'idée que je vous disais au début, c'est plutôt un spectacle autour de l'esprit de Cocteau à l'intérieur de ce décor un peu imaginaire qu'est le cabaret du Bœuf sur le Toit.
De la même façon, j'ai extrapolé un peu en amont comme en aval. Par exemple, je fais chanter deux ou trois Kurtweil. Kurt Weill n'a jamais fait partie pour cause, aussi. Mais il s'est noué quand même entre eux plus tard,
des amitiés,
à l'aube des
années
30, des amitiés, même avec Brecht, il y a eu quelque chose. Mais c'est ça qui est merveilleux. Il faut que je vous en convainque, Benoît, c'est pas possible que vous restiez sur cette position intégriste. Quand il y a quelque chose de très précieux qui a été affermant, qui a nourri la culture musicale française. Vous ne pouvez pas le nier, ça. C'est quand même très important que Cocteau ait existé.
Bien sûr.
Non, parce que je vous sens très réservé. Mais c'est peut-être une provocation.
Non, mais Cocteau, c'est vrai, avait un goût des formules un peu à l'emporte-pièce. Alors, dans Le Coq et l'Arlequin, il s'en prend à Debussy et Ravel juste pour faire de l'esprit d'une certaine façon, alors qu'on sait bien que Poulenc et Millau admiraient infiniment Debussy, vous voyez ce que je veux dire.
La phrase célèbre sur les chichis et les boursouflures de la musique impressionniste, c'est pas complètement faux. Mais
en
Debussy,
tout cas,
c'est autre chose. Vous savez que dans les concerts salades de Vienner et Doucet, il y avait des emprunts à Debussy qui étaient...
Donc justement, revenons-y à Cocteau. Je l'ai dit d'emblée, il est au cœur de votre spectacle qui se déroule donc au Bœuf sur le Toit. D'ailleurs, pas tout à fait dans le lieu d'origine, mais dans celui de la rue Boissy d'Anglas, hein, dans les années 20, avant qu'il ne parte encore à d'autres endroits. Et donc, ça se passe donc au début des années 20 et ça correspond à un moment précis aussi de la vie de Jean Cocteau que vous avez voulu mettre en scène.
Oui, l'ouverture date du 10 janvier 1922, oui. Rue Boissy-d'Anglas, car il n'y avait pas de bœuf avant, c'était le Gaïa qui était...
Voilà, ça s'appelait le Gaïa, mais c'était l'ancêtre avec le même patron.
C'était le même esprit. Voilà, et pourquoi je choisis cette date? Parce que depuis l'après-guerre, il choisit Cocteau avec Darius Milhaud, espérait trouver un endroit sur la rive droite, je trouvais que c'était le bœuf, puisque le nom était hérité du cabaret de Rio, dans lequel Darius Milhaud passait précédemment ses soirées. Il n'y a pas d'explication particulière, il n'y a pas de...
Non, mais
j'ai choisi l'origine, le début, les premières années, parce que c'était les premières années. Et je me suis arrêté à la fin 24 pour une seule raison. Raymond Radiguet, qui partageait la vie de Cocteau depuis 4 ans et demi, est mort brutalement et tragiquement en décembre 23, c'est-à-dire exactement deux ans après, et que immédiatement après, Cocteau a quitté le bœuf. Ça a été un cataclysme pour Cocteau. Non pas qu'il se fût aspiré de Radiguet, qui venait le soir pour se saouler à peu près tous les soirs.
Il était là, Radiguet, au bœuf sur le toit.
Ah oui, il y venait énormément, il arrivait, il insultait les gens en général, il buvait une bouteille de whisky, et il partait...
Ah, très désagréable.
Très insolent, très agréable, aucune séduction, sauf un sortilège totalement inexpliqué, sauf peut-être le talent poétique extraordinaire, parce que le diable est un véritable chef-d'œuvre. Bon, il est mort à 20 ans et demi et ça en a été fini. Du bœuf pour Cocteau. Il y retournait de temps en temps, mais le drame a été atroce. Il avait perdu sa jeunesse, la part de lui qui était tellement vestie vers la jeunesse, et il a attendu la mort à partir de là jusqu'à sa mort véritable.
Et vous avez d'ailleurs choisi un certain nombre de textes très bouleversants de Cocteau.
J'ai choisi
qui font référence à ce moment de sa vie.
J'ai choisi trois poèmes que je trouve...
C'est vous qui les...
Non, j'ai trouvé un jeune poète qui était un profil tout à fait coctalien, qui est au conservatoire actuellement, vraiment extraordinaire, un garçon de 20 ans. Il lit 6 poèmes de Cocteau, 3 poèmes d'amour et 3 poèmes sur la mort, qui sont vraiment bouleversants. Oui, il y a un peu de poésie. De temps en temps, il y a un texte. J'ai choisi aussi un texte de Maurice Saxe, enfin qui est très, très anecdotique, qui décrit la population du bœuf.
Voilà.
Un texte très connu d'ailleurs. Il décrit le public du bœuf, qui était un public extraordinaire, un public à la fois mondain, aristocratique, populaire et intellectuel et artistique. C'était un lieu de vie extraordinaire, très fervent.
Vous utilisez quelques images du lieu dans le spectacle, ou vous le faites simplement revivre par l'imaginaire?
L'imaginaire par la musique.
Oui.
Il y a énormément, j'ai 40 partitions, c'est vous dire. Ouais. Sous 3 registres qui figuraient dans la charte, si je puis dire, de Cocteau. C'est le fameux groupe des 6, qui était la valeur ajoutée culturelle. Ensuite, et surtout, alors là, c'est fantastique, c'est peut-être même le cœur du spectacle, le jazz.
La musique américaine.
Le jazz, toutes les musiques. Ouais. Toutes les musiques. C'est ça que je trouve aussi merveilleux. Ce garçon, il avait 30 ans, enfin, 30 ans, c'est un jockey, enfin quand même, il décide que dorénavant, on ouvrira la salle parisienne à des influences qui étaient quand même balbutiantes. Le slavisme, c'est vrai, on jouait pas beaucoup. Bon, bref, c'est vrai que Stravinsky était déjà en place, mais quand même, le slavisme, la musique latino-américaine avec ses rythmes particuliers que vous connaissez. On a entendu ce Darius Milhaud, formidable, bœuf sur le toit de Darius Milhaud. Et troisièmement, la musique populaire.
La chanson.
La gouaille, le Paris Canaille, le trottoir. Je ne sais pas, j'ai une faiblesse chez Cocteau. Et c'est un oxymore, hein, Cocteau. Il y a quelque chose d'aristocratique, mais aussi quelque chose d'assez populo chez lui, n'est-ce pas?
C'est ce qu'il relie d'ailleurs à Poulenc, quoi.
Voilà. Alors, il avait exigé qu'il y ait des gouailleuses qui étaient là. Voilà, Miss Aguette.
Yvonne Georges.
Yvonne Georges, le film de guerre, etc. Et il y a ça. C'est Mona, l'ancienne épouse de Savary, qui est ma chanteuse populaire.
On va revenir alors à la distribution, mais petit tour par Broadway, effectivement, avec un des grands succès de l'époque qui, je crois, figure dans le spectacle, c'est la chanson de Gershwin, Swanee. Ah.
Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in D-I-X. I even know my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north will see me no more when I get to that Swanee shore.
Hey, down upon the Swanee, Swanee,
I am coming back to Swanee. Mammy, mammy, I love the old folks at home. Swanee, how I loved you, my dear old Swanee.
I love the old folks, I love the young folks. Oh, my honey lamb, you love them all in Alabama. Mammy, mammy, my dear old mammy, your wandering child will wander no more. When I get to that Swanee,
Swanee, la chanson de Gershwin enregistrée par Judy Garland, une des nombreuses pièces d'ailleurs de Gershwin et de musique américaine qu'on trouve dans votre spectacle Le Bœuf sur le Toit, Philippe Tesson.
Absolument, sans Judy Garland malheureusement.
Citez-nous justement, Philippe Tesson, donc les femmes qui vous accompagnent dans ce Bœuf sur le Toit pour chanter ces chansons. Vous avez dit donc Mona Heftre, qui est plutôt pour la partie, on dirait, variété de la chanson, ouais, qu'on a vu beaucoup avec Jérôme Savary dans de nombreux spectacles.
Elle a beaucoup travaillé avec lui pendant 20 ans. Oui.
Voilà. Laurence Loger.
C'est une fille qui a beaucoup travaillé à New Orleans. C'est une spécialiste de musique de jazz de la Nouvelle-Orléans. Elle ne fait que du jazz, elle est professionnelle, elle est merveilleuse, elle est jeune. Et une grande, grande énergie, comme j'aime, dans l'interprétation du jazz.
Et puis pour la partie plus classique, c'est Caroline Casadesus.
Oh, bonne vie, elle est merveilleuse, Caroline. Oui.
On va l'entendre dans un instant, mais je cite aussi les pianistes Orlando Bass, Jean-Baptiste Doulcet, Jean-Christophe Rigaud, avec beaucoup de quatre mains, et puis du piano.
Jean-Christophe Rigaud est l'accompagnateur de Caroline, et les deux jeunes gens sont extraordinaires. Ils jouent le rôle que jouaient Wiener et Doulcet. Ils ont une formation au Conservatoire de Paris qui est formidable. Ils sont très très jeunes, très brillants.
Et puis bien sûr, vos deux filles, dont l'une met en scène Stéphanie Tesson, l'autre est sur scène, Daphné Tesson.
Elle a la responsabilité de la musique, et elle chante elle-même des chansons douces, jazzy, avec beaucoup de tendresse.
Voilà. C'est donc le spectacle Le Bœuf sur le Toit, Philippe Tesson, que vous présentez depuis hier soir au Théâtre de Poche. Ce théâtre de Poche, alors on en dit un petit mot quand même parce que c'est important, c'est un théâtre bien connu des habitants du quartier Montparnasse qui est au fond d'une allée qui existe depuis très, très longtemps.
Depuis la guerre.
Depuis carrément la fin de la guerre. Voilà.
C'était le premier théâtre de Villars.
Voilà. Et puis c'est un théâtre que vous avez racheté
oui.
Il y a quelques années.
Oui.
Voilà.
Ça a l'air de vous étonner.
Non, mais enfin, je veux dire, d'abord, on sait qu'en général, quand on achète un théâtre, c'est pour se ruiner.
Mais c'est un tout petit théâtre, c'est donc une petite ruine.
Ah bon, d'accord. Ça va, c'est une sacrée responsabilité d'être un
théâtre.
Pas,
je ne vais pas faire l'éloge de mon théâtre ici, ça marche bien. Il y a un public qui est merveilleux, j'ai une équipe formidable. Voilà, c'est un théâtre qui travaille beaucoup. Il y a une diversité de textes très forte, importante. Il y a deux salles, bah, vous êtes venus.
Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, les auditeurs ne savent pas forcément tous qu'aujourd'hui, au Théâtre de Poche, un peu sous votre autorité, cette quantité de spectacles.
Je les invite à venir.
C'est le premier spectacle musical du Théâtre de Poche.
C'est le premier, oui, c'est une tentative qui aura des lendemains. C'est une démarche délibérée. Nous ferons ça, je pense, tous les printemps, c'est-à-dire introduire la musique dans le théâtre, ce qui a toujours été une de mes passions. Il y aura donc, je veux dire, une saison de cet été. D'ailleurs, là, même en septembre, nous poursuivons avec un spectacle Offenbach.
Que je connais, parce que c'est Yves Coudray, je crois.
C'est Yves Coudray qui l'a écrit. Voilà. Et même cette saison, en même temps que Le Bœuf sur le Toit, Caroline Casadesus chante le lundi La Voix humaine de Cocteau et Poulenc, un opéra de chambre qui est très beau.
Oui.
Et le mardi, mercredi, jeudi, nous faisons un cabaret Picasso avec Jean-Jacques Benex, Reinhard Wagner, et sur l'époque du bateau Lavoir.
Donc c'est tout un mois de juin, année 20.
Voilà, c'est juin, juillet, année 20, avec la musique et la poésie.
La Voix humaine, aujourd'hui, on entend souvent la version avec orchestre. Là, Caroline Casadesus le joue avec piano. Vous avez vu au théâtre, par ailleurs, la version purement théâtrale ?
Ah oui, je n'ai jamais vu. Enfin, il y a eu Bert Bovy.
Oui, Bert Bovy.
Je n'ai pas vu Bert Bovy. Je suis très âgé, mais...
quand même.
Il ne faut pas exagérer. Voilà. Oui, j'ai souvent vu La Voix humaine, dans des spectacles privés surtout. Oui.
Et on va retrouver justement quelques instants la voix de Caroline Casadesus dans cette œuvre de Poulenc.
Souviens-toi des dimanches de Versailles.
Caroline Casadesus, dans La Voix humaine, avec au piano Jean-Christophe Rigaud, qu'on retrouve donc également dans votre théâtre, Philippe Tesson, au Théâtre de Poche, pour les soirées Voix humaine, en alternance avec les soirées Bœuf sur le toit, que vous présentez, que vous animez, vous faites le battleur en quelque sorte.
Oui, le bonimenteur.
Le bonimenteur.
Le cabaret.
Presque en famille. C'est très important pour vous aujourd'hui, Philippe Tesson, cette proximité avec vos filles pour le théâtre, votre fils avec ses aventures de voyageur et d'écrivain, j'ai l'impression.
Oui, je suis de nature et c'est, ouais. Là, c'est depuis toujours. Oui, j'ai toujours accordé beaucoup d'intérêt et de passion plutôt à, ce,
à cette fils valeur. Votre fils dit quelque part qu'il a une enfance extraordinairement libre et que c'est à l'âge où on s'éloigne généralement de ses parents que lui, au contraire, justement, s'est rapproché et que oui. Finalement, plus les années passent, plus vous êtes proches tous ensemble.
Oui, absolument. En même temps qu'il a pris sa liberté et son envol. Oui, nous sommes très attachés, oui, très liés oui, avec mes filles avec lui. Nous formons une espèce de tribu familiale.
C'est ça.
À la africaine.
À l'africaine, mais sauf que c'est dans les environs de Paris.
Le soir, nous pressons le mil dans le bol de bois. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus proche de Cocteau que de l'Afrique rituelle.
Dites-moi, Philippe Tesson, parce que ça nous intéresse tous, puisqu'on vous envie tous d'avoir encore aujourd'hui un âge certain, une énergie merveilleuse, une fraîcheur de jeune homme. Comment ça vous est venu, cette vitalité? Comment vous l'entretenez? Est-ce que vous avez des règles de vie? Vous ne fumez pas,
Je fume, mais hélas, je fume, je bois, je profite énormément de la vie, je ne dors pas beaucoup. J'ai une chance, c'est de nature, voilà, c'est très égalitaire, mais je ne crois pas à l'égalité. Et j'y crois d'autant moins que je bénéficie quand même davantage de la vie que beaucoup de gens. J'ai toujours eu de la chance. Tout ça est biologique.
Vous avez toujours eu de la chance.
Ben, je pense. Ouais. Ben non, j'ai eu des malheurs. Ouais. Mais j'ai eu cette chance physique de résister au temps et à la maladie, comme on dit. Voilà. Il n'y a pas de secret. Alors peut-être mes disciplines intellectuelles et morales, si je puis dire, vont être encouragées cette disposition naturelle.
Bon, en tout cas, ça ne vous fait pas peur de monter trois soirs par semaine sur scène?
Ah, pas du tout.
De rentrer très tard chez vous, d'aller souper après le spectacle?
Non, au contraire, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette vie. Là.
Une chose que vous n'avez pas faite dans cette vie si bien occupée, Philippe Tesson, quand même, qui manque peut-être, c'est le livre où vous raconteriez tout ça, par exemple.
Non, écoutez, j'ai une culture et puis je suis forgé une discipline, ça correspond sans doute à ma nature, de l'éphémère. C'est la rançon ou bien la grâce du journaliste et du quotidien. J'ai toujours considéré une journée comme une vie entière. Et voilà, je ne suis pas à la mesure. Je n'ai pas eu une vie telle qu'elle mérita d'être transcrite dans des mémoires. Je n'ai pas le génie poétique. Et c'est tout. Je préfère vivre à écrire, ce qui n'empêche pas la réflexion, mais c'est tout à fait autre chose. C'est à la fois, je crois, une adaptation de mon mode de vie à ma nature, inconsciemment. Je pense que je n'étais pas fait pour écrire. Ou alors pour écrire tous les jours, ce que j'ai d'ailleurs fait.
Ce que vous avez fait.
J'ai fait des éditoriaux tous les jours de ma vie, des critiques dramatiques toutes les semaines de ma vie. Ça suffit bien. Et qui suis-je?
Merci beaucoup, Philippe Tesson, d'avoir été avec nous. On peut se quitter avec Vianney Doucet, ça vous irait?
Ah oui,
j'imagine qu'ils sont présents dans le spectacle.
Ils sont présents.
Merci Philippe, à bientôt.
Merci à vous.
Rêves d'amour de Franz Liszt, détourné par Jean Wiener et Clément Doucet. C'était en 1928, au temps du Bœuf sur le Toit. Et le Bœuf sur le Toit, c'est le nom donc de cette soirée que vous propose Philippe Tesson au Théâtre de Poche. C'est à Montparnasse. C'est tous les vendredis et les samedis à 20h30. Et c'est dans le cadre plus large d'ailleurs du Cabaret du Poche, puisque le lundi, c'est Caroline Casadesus qui chante La Voix Humaine avec piano. Et le mardi, mercredi et jeudi, c'est le Cabaret Picasso de Reinhard Wagner, une série de spectacles musicaux donc au Théâtre de Poche, à ne pas rater. C'est jusqu'au 14 juillet. Quelle petite merveille. Là, je remercie vraiment mon ami Serge Laïc pour ce coffret qui vient de sortir chez Marianne Mélodie. 50 merveilleuses musiques de films. Vous l'avez reconnue celle-ci? C'est le film Atari, sorti en 1962 au Ward Oaks, et musique surtout, et orchestre d'Henri Mancini dans Baby Elephant Walk. Et puis tiens, avant de retrouver Patrick Campistron, je vous ai beaucoup parlé de thé ces dernières semaines. Vous savez, il y a eu le Tea for Two, bien sûr, de la comédie musicale américaine. Il y a eu ensuite le Thé à deux de Franz Lehár, version viennoise. Il est décidément très présent dans le théâtre musical léger, le thé, parce que j'ai aussi retrouvé celui-ci, qui se trouve chez Offenbach, dans Geneviève de Brabant, et qui sert à soigner une indigestion.
Je ne connais rien au monde d'excellent comme le thé, mais faut que le sucre fonde et qu'il soit bien apprêté. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon, c'est bon. C'est bon le thé. Mmh. le thé bien chaud doit se prendre. Craint-on par trop le pâté, il faut le faire descendre. Voilà pourquoi j'ai monté. Après le pâté, c'est bien bon le thé. Après le pâté, c'est bien bon le thé. C'est bien bon, c'est bien bon. C'est excessivement bon. Je suis fixé, c'est une indigestion. Sur le moment, j'ai cru que j'allais mourir et j'ai fait d'amères réflexions. Ma conscience s'est dressée devant moi, noire comme un juge, et elle m'a crié : Duc Sifroi, tu n'es que poussière, confesse tes crimes, tu n'as que le temps. Tremblant et perdu, j'avouais tout, j'ai reconnu que j'en avais trop mangé. Et soulagé par cet aveu, j'ai pu gagner ma chambre, mon lit et du thé bien chaud. Ça passera.
Voilà comment on soigne une indigestion. C'était Jean Giraudeau dans Geneviève de Brabant, un enregistrement de 1956 dirigé par Marcel Cariven. Ça, c'est pour répondre au courrier de nombreux auditeurs qui ont beaucoup aimé, et je les comprends bien, la semaine dernière, la diffusion d'une valse par Tony Murena qu'on vient d'entendre. La semaine dernière, c'était Mensonge. On m'a demandé le titre, je le redis. Là, c'est Minouche. Et ça vient du même coffret chez Frémo et Associés. Tony Murena, swing, accordéon, 1939-1949. Plein de merveilles à découvrir pour les amateurs d'accordéon.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi, Benoît. France Musique.
Et sur France Musique, il est 12h13, c'est l'heure de la chronique aujourd'hui avec Patrick Campistran. Bonjour Patrick.
Bonjour mon cher Benoît.
Patrick, le roi des détournements du classique à la variété ou de la variété au classique. Alors aujourd'hui, précisément...
Aujourd'hui, les chanteuses de variété s'attaquent au piano classique.
Au piano classique, pas au chant seulement.
Pas au chant seulement. Commençons donc par le commencement, car tous les pianistes en herbe se sont un jour ou l'autre confrontés à cette incontournable qu'est la bagatelle en la mineur de Beethoven, plus connue sous le nom de... Lettre à Élise. Et si ce morceau n'est pas d'une difficulté extrême, les apprentis musiciens ne sont pas forcément de futurs virtuoses, ce qui peut parfois créer quelques désagréments pour le voisinage. C'est sans doute la mésaventure qui est arrivée à Anne Sylvestre, qui a décidé d'envoyer une lettre ouverte à cette Élise.
La la la, la la la. Ma voisine sait jouer que ça, gna gna gna, gna gna gna. Du matin au soir il n'y en a, la la la, la la la. Que pour Élise, et supposons que je lui dise à ma façon, depuis le temps que tu entends ça, gna gna gna, gna gna gna. Est-ce que ça ne te saoule pas, la la la, la la la. Mais qui était cette Élise qui défrise nos pianos, qui s'enfin se gargarise et se grise de trémolo? Dis Ludwig, si tu avais imaginé que ça tournerait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas fignolé, rajouté un bémol ici ou là? Est-ce qu'à ton Élise tu n'aurais pas pu dire tout ça de vive voix? La la la, la la la. Comment croire qu'Élise écoutait sans arrêt, ce machin qui vraiment ne me fait pas marrer, pas marrer. Oui, mais Élise, elle aimait ça, qu'on lui redise blablabla. Bla. Pourquoi écrire avec un piano, les petits marteaux, les petits marteaux? Quand c'est si simple avec un stylo, et puis des mots, rien que des mots. Mais cette garce d'Élise traumatise le bon Ludwig. S'il envoie ses grosses bises, elle les veut en musique. Ah si seulement elle avait pu se taper le facteur, on n'aurait pas eu à se farcir tous ces doubles soupirs et tous ces ne m'oubliez pas. S'il avait pensé à lui téléphoner, on n'aurait pas écopé ça. La la la. Chaque jour à l'heure du courrier, et allez, il faut qu'elle vienne massacrer, et taper, et tamponner. Mes chères Élise, il serait bon que vous accusiez réception. Qui sait, mais si vous lui répondiez par courrier recommandé, elle pourrait apprendre par cœur, enfin le gai laboureur. Je sais que je m'en lasserai, mais ça là là, mais ça là là, mais ça me changerait.
Une petite merveille, lettre ouverte à Élise, Anne Sylvestre, qu'on salue en 1973, un choix de Patrick Campistron.
Et peut-être Anne Sylvestre avait-elle eu comme voisine Colette de Réal, car celle-ci, comme on va s'en rendre compte tout de suite, ne manifestait pas un grand talent pour le clavier. Elle nous narre ici ses débuts pianistiques censés satisfaire papa-maman, mais si elle n'était pas douée pour le piano, elle savait en revanche fort bien user de sa voix dans un style jazzy vocalisant.
Quand je jouais cette air-là sur mon piano d'étude, mon piano droit, ma mère m'écoutait en tricotant une veste à papa qui souriait en regardant mes doigts. Quand je jouais cette air-là sur mon piano d'étude, mon piano droit, je m'ennuyais et pensais à Charlie qui m'attendait devant le cinéma. C'est à cause de ça que Charlie Bouda, tout en rentrant chez ses parents, et voilà pourquoi depuis ce temps-là, c'est la musique qui me réplique. Quand tu jouais cette air-là sur ton piano d'étude, ton piano droit, tu n'aurais pas dû jouer comme ça par cœur avec ton cœur en même temps, je crois. Et depuis, j'écris sans toi devant mon piano de jolies mélodies, mais tu ne sais pas qu'elles sont pour toi. Et bien que mon cœur s'ennuie, je te dis merci Charlie, car grâce à toi je pourrais chanter dans la vie. Quand je jouais cette air-là sur mon piano d'étude, mon piano droit, ma mère m'écoutait en tricotant une veste à papa qui souriait en regardant mes doigts. Quand je jouais cette air-là sur mon piano d'étude, mon piano droit, je m'ennuyais et pensais à Charlie qui loin de moi ne savait pas tout ça. Mais voilà qu'un jour, faisant un détour, je l'ai revu et tout ému, je l'ai invité à venir m'écouter. Et ce soir-là, voilà pourquoi j'ai joué pour lui cette air-là sur mon piano d'étude, mon piano droit. Il m'écoutait en souriant et je pensais content, comme je le sais par cœur, on pourra tous les deux arriver juste à l'heure et s'en faire tout heureux. Oui, enfin le cinéma sur mon piano d'étude quand je jouais cette air-là.
Colette de Réal en 1966, très jazzy sur cette musique de Joe Moutet et Georges Jouvin quand je jouais cette air-là. Aujourd'hui, c'est Patrick Campistron qui nous parle des chanteuses de variété qui s'attaquent au piano classique.
Et après le piano familial, nous voici au pensionnat de jeunes filles pour des gammes tout à fait originales. Mais je vous laisse découvrir sans plus attendre ce concerto pour dames seules, magistralement interprété par Catherine Sauvage.
C'est à la pension des bonnes mères qu'Agathe a connu Dorothée. En apprenant les bonnes manières, le solfège et le doigté. Comme elles étaient douées, non charmantes, c'est après la classe de chant qu'elles ont joué au féminin pluriel. Un petit morceau pour débutantes, prouvant ainsi qu'il est certain que l'on peut jouer à quatre mains, que l'on peut jouer à quatre mains le concerto pour dames seules. Agathe avait l'âme plus légère que la cuisse de Dorothée, et bientôt la démarche altière du professeur de chant l'a tentée. Alors au milieu d'une ritournelle, sur un mode un peu moins singulier, avec lui elle s'en alla chercher, chercher une inspiration nouvelle, comme Schubert. Elle a laissé inachevé, elle a laissé inachevé le concerto pour dame seule. Dorothée, longtemps inconsolable, sur le clavier abandonné, cherchait des mélodies lamentables avec des sanglots à la clé. Mais un jour, ouvrant une méthode qui traitait de l'art du concerto, elle apprit que le pizzicato n'était pas prêt de passer de mode. Et sans remords au singulier, elle acheva sans sourciller, et la cheva sans sourciller le concerto pour dame seule, le concerto pour dame seule, le concerto pour dame seule.
Voilà un concerto à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est pour dame seule. C'est Catherine Sauvage en 1968, ça vient du coffret Chansons coquines, Patrick Campistron.
Oui, les pièces classiques ont souvent été adaptées en chansons avec plus ou moins de goût. Mais je voudrais vous faire entendre une parfaite réussite avec la version du prélude numéro 4 en mi mineur de Chopin que nous offre Hélène Martin. Sobriété, pureté de la voix et respect de l'œuvre. Un moment de grâce.
Prélude au silence, à l'oubli, se taire pour que la voix ne fasse plus souffrir et que la voix s'oublie en nous, me taire, oui, me taire, et que la voix s'oublie en moi, prélude au silence, et que je cherche en vain les mots pour apprendre à me taire, me taire, oui, me taire. Prélude à l'oubli, à la voix. Effacée.
Prélude au silence, Hélène Martin, que je salue elle aussi, on avait eu le plaisir de la recevoir ici même, sur la musique de Frédéric Chopin, Patrick Campiste.
Et après le dépouillement, voici les Strass pour terminer chœurs et violons et arrangements hollywoodiens pour grand orchestre du troisième mouvement du concerto numéro 2 de Rachmaninov sous la baguette de Werner Müller, forment un écrin très glamour à Caterina Valente. Full moon and empty arms, autrement dit, c'est la pleine lune et je suis seul. Plaignons-la!
Like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I'll use the magic moon to wish upon. And next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled with you. Mm-hmm.
Merci beaucoup Patrick Campistron pour ce joli choix.
Merci Benoît.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Pauline Boiseau-Père. Aujourd'hui à la technique Emmanuel Dupuis avec Emmanuel Rose, Raphaël Bézikian, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, je suis très heureux de recevoir le fils d'un des très grands compositeurs de la chanson française, Casimir Oberfeld, celui de Félicie aussi, de Pour être rechanté, mort tragiquement à Auschwitz. Je serai en compagnie de son fils, Grégoire Dunant.